Et au menu de notre club cet après-midi, de la science autour d'une bière, des jeux vidéo, des mondes imaginaires et des coraux au Trocadéro, je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, un fait divers botanique au Muséum.
Un imbroglio entre le Muséum de Paris et celui de Queensland en Australie a conduit à la destruction de plus de 106 planches rarissimes de l'herbier français. On en discute avec le responsable scientifique de l'herbier, Serge Muller.
Voilà donc pour le sommaire de ce club réalisé aujourd'hui par Céline Hilla et préparé par Dylan Beiner.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités, Élodie Chabrol, Jean Z et Guillaume Éveillard. Bonjour à vous toutes et tous.
Bonjour.
Élodie Chabrol, on va donc sortir les pintes de bière à partir de lundi pour découvrir la sans modération, la science à l'occasion du festival Pint of Science. Ce sera dans 33 villes de France, c'est ça?
33 villes de France, tout à fait, pour 250 soirées. L'idée, c'est sur 3 soirs.
L'idée, c'est quoi alors exactement?
L'idée, c'est tout simplement de faire sortir les chercheurs de leur laboratoire pour les amener à discuter avec le public dans un bar.
Et de boire avec modération. On le soulignera évidemment. Jean Z, que tous ceux qui ont grandi avec Pac-Man ou Mario Bros se réjouissent. L'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps, nous permet de d'abord retrouver toute l'histoire de ces jeux et d'y rejouer aussi.
Effectivement, expo interactive avec une trentaine de post-joueurs qui raconte une histoire parmi d'autres du jeu vidéo. On retrouve des chercheurs, non pas au bar, mais des chercheurs qui ont inventé dans les années 50-60 ce jeu vidéo sans même le savoir.
Exposition à voir à la Fondation EDF. Guillaume Éveillard, une exposition là consacrée aux coraux. C'est en ce moment au Trocadéro. Le but, c'est de quoi? De sensibiliser tout le monde à la condition justement de ces organismes.
Voilà, tout à fait. L'intérêt, c'est de présenter déjà les coraux. Donc, il y a 450 coraux qui sont répartis dans 15 bassins. Et on veut sensibiliser notamment les générations futures. C'est un public constitué d'enfants de 3 à 12 ans qui viennent voir les coraux.
Ouais, la situation est critique en ce moment?
Oui, on pense qu'il y a 20% des coraux déjà qui ont disparu définitivement et ceux qui restent, il y en a un quart à peu près qui sont encore vraiment endommagés.
On va y revenir bien sûr avec vous et présenter cette exposition. Voilà donc pour le menu de notre club avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Un scandale, vous m'entendez? Une honte! Vous dépassez les bornes!
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon.
Voilà un avocat pour cette drôle d'histoire de prêt botanique que nous allons vous raconter et qui se termine mal. Que s'est-il passé entre le 17 et le 22 mars dernier à Canberra pour que le département de l'agriculture australien décide de réduire en cendres 106 planches rarissimes prêtées par l'herbier national du Muséum de Paris à celui justement du Queensland? C'est ce que vous cherchez à comprendre. Serge Muller, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être en ligne. Vous êtes responsable scientifique donc de cet herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous résumer les faits de cette drôle d'affaire de planches brûlées par les Australiens?
En quelques mots, donc c'est un prêt que nous avons, une demande de prêt que nous avons reçue de l'herbier du Queensland au mois de novembre 2016, comme on en reçoit près d'une centaine par an. J'ai vérifié en 2016, c'est 88 prêts qu'on a accordé avec plus de 3000 spécimens. Donc c'est une pratique courante de l'herbier et entre les scientifiques pour pouvoir étudier le matériel de faire des prêts sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et donc cette demande de prêt est arrivée au mois de novembre. On l'a expédié ce lot de 106 ou 107 échantillons à la fin du mois de décembre. Et donc on s'inquiétait de ne pas avoir de retour. Et le 1er mars, le chargé de conservation, le curator, comme ils disent, de l'herbier, nous a contacté pour dire mais nous n'avons pas reçu votre pièce, le prêt. On lui a répondu qu'il a bien été expédié. Du coup, il a fait des recherches en interne et il a été localisé au département d'agriculture et de ressources aquatiques, c'est le ministère de l'agriculture en Australie, mais qu'il avait mis en service de quarantaine, puisqu'il était nécessaire qu'il y ait un document qui nous a été demandé, que nous avons envoyé une déclaration de quarantaine attestant qu'il n'y avait pas d'insectes ou pas d'éléments pathogènes susceptibles de créer des nuisances ou des micro-organismes dans les cultures ou sur les populations sauvages en Australie. Donc ça a été fait. Et l'herbier du Queensland nous a rassurés, nous a dit effectivement, on a bien localisé le prêt, on va le récupérer. Ça, c'était le 22 mars et c'est le 7 avril qu'on a eu droit alors à la catastrophe. Le directeur de l'herbier qui nous écrit que malheureusement, par suite de mésententes, de mauvaises communications entre eux et puis le département de l'agriculture, toute la collection a été détruite par le département de l'agriculture en Australie.
Mais alors pourquoi le feu ? Est-ce que ces planches présentaient réellement un danger pour la biodiversité australienne ?
Non. Bon, il y a toujours un danger potentiel. C'est bien pourquoi tous les échantillons que nous envoyons sont passés au congélateur pour garantir qu'il n'y a pas, à moins 30 degrés, pour garantir justement qu'il n'y a pas d'éléments susceptibles de causer des dégâts, on va dire, sur leur territoire.
Alors, quels étaient les spécimens qui ont disparu dans les flammes ?
Alors, la collection, ce sont des espèces du genre Lagenophora, si vous voulez, ce sont des espèces de marguerites, de la famille des composés ou des astéracées, et qui sont bien représentées en Océanie ou dans le sud-est asiatique. Il y en a aussi quelques espèces en Amérique, mais ce qui les intéressait, les collègues australiens, pour faire une révision de ce genre, c'était d'avoir nos collections en prêt provenant de leur territoire.
Et c'est des plantes qu'on peut encore ramasser aujourd'hui ou c'est des plantes sont éteintes?
C'est des collectes qui avaient été faites les plus anciennes à la fin du XVIIIe siècle. C'est pourquoi elles présentaient non seulement un intérêt sur le plan scientifique, mais également un intérêt sur le plan historique, puisque certaines d'entre elles avaient été récoltées par de la Billardière lors du voyage de recherche de l'expédition de la Pérouse à la fin du XVIIIe siècle. Donc, présentant un intérêt scientifique, parce qu'on a aussi des types, ce qu'on appelle des types, qui sont des échantillons de référence ou des étalons pour certaines espèces qui ont été décrites.
Est-ce qu'on peut vraiment estimer la perte de patrimoine d'une manière ou d'une autre et demander une compensation, par exemple, aux Australiens ?
C'est très difficile à estimer, je dirais plutôt c'est inestimable. Ceci d'autant plus que parmi les 107 échantillons, il y en avait quelques-uns, une dizaine, qui n'étaient pas identifiés. Il y avait peut-être des espèces nouvelles parmi ces échantillons. L'intérêt de faire ce prêt, ces échanges entre institutions botaniques à travers le monde, c'est bien de pouvoir améliorer les connaissances et de pouvoir découvrir des espèces nouvelles qui ont été collectées mais qui n'ont pas encore été identifiées.
Et donc ne pas les brûler, évidemment. Serge Muller, est-ce que ce genre d'accident est déjà arrivé par le passé ou pas?
À ma connaissance, c'était la première fois. J'ai interrogé mes collègues, certains disaient qu'il y a une cinquantaine d'années, c'était déjà arrivé, mais c'est heureusement quelque chose de tout à fait exceptionnel et en fait d'inadmissible.
Vous allez porter plainte ou pas?
Ça, je ne sais pas. Il faudra voir la réaction qui est actuellement en cours de réflexion au niveau de la direction des collections et au niveau de la présidence du muséum.
Mais c'est envisageable?
Ce serait envisageable. Mais bon, à voir au moins s'ils ne peuvent pas nous apporter des compensations, par exemple des récoltes qui ont été faites de ces mêmes échantillons sur leur territoire, afin de remplacer cette perte, même si ça ne peut pas être équivalent.
Est-ce qu'il existe une trace, un dessin de ces planches perdues, ou des photos peut-être?
Alors, heureusement, tout l'herbier du muséum, c'est-à-dire c'est plus de 6 millions d'échantillons, ont été numérisés. C'est-à-dire qu'il y en a des photos qui sont libres d'accès. Il suffit d'aller sur le site internet du muséum et vous pouvez, en tapant le nom du genre, hein, Lagenophora, donc retrouver les images de ces plantes. Mais les images ne remplacent évidemment pas les échantillons eux-mêmes. On n'a pas la même finesse, on ne peut pas en prélever des échantillons pour faire des analyses chimiques ou génétiques par exemple. On ne voit qu'une seule face sur les images. Il y a la face cachée aussi des plantes qui n'est pas visible. Donc c'est une maigre consolation, et dans l'herbier on va remplacer alors les échantillons perdus, détruits par des images. Mais c'est quand même un pis-aller.
Vous numérisez donc absolument tout ce que vous avez au sein de l'herbier aujourd'hui?
Oui, l'herbier a fait l'objet d'une numérisation il y a quelques années, et toutes les nouvelles collectes qui arrivent, qui résultent de dons ou de récoltes, sont systématiquement numérisées.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de planches au total compte l'herbier du Muséum de Paris? Parce que je crois que c'est le plus grand du monde.
Tout à fait. Hein, c'est pareil. Il y en a de l'ordre de 8 millions. Il y en a plus de 6 millions qui ont été numérisés. C'est-à-dire que dans les collections, il y a également des algues, des mousses, des champignons qui, eux, n'ont pas encore fait l'objet de numérisation.
Est-ce que vous avez pris la décision d'être moins prêteur à l'avenir?
Au moins dans un premier temps. Alors nous sommes encore dans l'attente d'explication de la part du département de l'agriculture qui ne s'est pas manifesté à ce jour auprès du muséum. Nous avons un courrier de l'herbier du Queensland qui est aussi désolé que nous, puisqu'ils souhaitaient travailler avec ces échantillons, ils ne pourront pas le faire. Mais au moins dans un premier temps, dans l'attente d'explication et de garantie que cela ne pourra plus se faire, Donc le président d'un muséum a décidé de sourcoir à tout près de non seulement d'échantillons d'herbiers, mais de toutes les collections à destination de l'Australie.
Bon, relation peu refroidie, donc on le comprend.
Voilà, ceci d'autant plus qu'on a entendu qu'il y avait eu une autre affaire de ce genre, un prêt de lichen fait par la Nouvelle-Zélande à l'Australie qui a subi le même triste sort.
Voilà, donc affaire diplomatique et botanique entre la France et l'Australie à la suite donc de la perte.
Sur d'autres sujets, nous collaborons de manière très, très étroite. Il ne faut pas que cela entache les bonnes relations que nous souhaitons avoir avec les scientifiques australiens.
Vous êtes un bon diplomate, Serge Muller. Merci beaucoup à vous, responsable donc de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle après donc cette péripétie qui vient de vous arriver, la perte quand même, on le rappelle, de plus d'une centaine de planches inestimables. Merci beaucoup pour vos explications. Axel, bon week-end.
Et à lundi.
Et à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le réchauffement climatique qui modifie le microbiote intestinal des lézards. C'est une conclusion qui nous vient de chercheurs toulousains qui ont testé artificiellement les effets de différents climats sur des populations de lézards en captivité. Ils montrent qu'un réchauffement de 2 degrés entraîne une perte de plus de 34% des espèces bactériennes dans l'intestin de ces petits reptiles. Un constat qui peut facilement s'étendre à de très nombreuses espèces animales. Les chercheurs concluent leurs études avec une alerte en affirmant que la perte de biodiversité due au changement climatique serait fortement sous-estimé aujourd'hui en raison de l'oubli dans les calculs des interactions fines justement entre les microbiotes et leurs hôtes. L'odorat humain est bien moins bon que celui des autres mammifères. Cette idée communément admise n'est étayée par aucune preuve scientifique directe. Voici la drôle de réflexion que mène dans les colonnes de la revue Science le scientifique américain John McGann, un spécialiste de l'odorat. Il publie aujourd'hui une revue exhaustive de la littérature scientifique depuis 150 ans et défend l'idée que notre odorat serait aussi bon voire meilleur que celui de beaucoup de mammifères, se basant sur le nombre de récepteurs olfactifs et la taille de la zone du cerveau dédiée à l'odorat. Il montre que nous sommes certainement aussi bons que les souris en étant théoriquement capables de sentir et différencier plus de 1000 milliards d'odeurs. Il ne vous reste donc plus qu'à vous exercer. Et puis pour terminer, voici l'histoire de la libellule qui simule la mort pour ne pas avoir à s'accoupler. Poursuivie en vol par un mâle trop entreprenant, la femelle peut cesser brusquement de battre des ailes et se laisser tomber au sol comme une pierre, feignant donc la mort pendant de longues minutes, jusqu'à ce que le mâle se lasse et s'en aille. Cette découverte fortuite, relatée par un jeune naturaliste suisse dans la revue Ecology, a donné lieu à une étude approfondie qui montre une véritable guerre des sexes chez cette espèce de libellule des montagnes. En effet, face à des mâles cherchant à multiplier les accouplements au maximum, les femelles, elles qui ont tout intérêt à n'être fécondées qu'une seule fois, ont donc inventé cette technique parfaitement inédite. Et c'est donc le club dans un instant. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved it, but we had to let it go.
like the front of a casino. Push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me.
Alexandra Savior à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Avec aujourd'hui des coraux au Trocadéro, de la science autour d'une bière, de l'imaginaire à Épinal et puis la grande histoire des jeux vidéo. C'est donc notre sommaire cet après-midi. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Élodie Chabrol, on commence avec vous. Vous êtes neuroscientifique et chercheuse. Vous travaillez à Londres, hein, c'est ça?
Tout à fait.
À l'Institute of Neurology, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait.
Très exactement.
De UCL.
Et vous êtes directrice de Pint of Science France.
Tout à fait. Hein,
c'est ça. Racontez-nous alors ce qu'est exactement ce festival qui parle de science autour d'une pinte de bière. C'est vraiment ça le principe?
Exactement, c'est exactement ça le principe. On se rend dans les bars et on écoute les chercheurs discuter de leurs recherches, de leurs découvertes, une pinte de bière à la main.
Donc ça, c'est vraiment le principe.
C'est vraiment le principe.
Ouais, qui est né en Angleterre.
Donc il est né en Angleterre en 2012. En fait, ce sont deux chercheurs, Pravin Pal et Michel Moskin, qui ont reçu des patients dans leur laboratoire et qui se sont rendus compte qu'en fait, ces gens étaient vraiment fascinés par la science.
Vous dites
et...
des patients dans leur
Alors,
laboratoire?
Alors des patients, parce qu'ils travaillaient en fait sur des maladies neurodégénératives.
D'accord.
Donc Alzheimer, Parkinson, etc. Et ils ont reçu des patients dans leur laboratoire qui sont venus un petit peu voir ce qui se passait en recherche sur leur maladie. Et là, ces patients étaient vraiment passionnés. Ils adoraient, ils ont posé plein de questions, ils étaient vraiment fascinés par ce monde. Et donc, du coup, ces deux chercheurs se sont dit, mais en fait, ça serait vraiment bien que les gens aient un peu plus accès à la science. Faire venir les gens dans un laboratoire, c'est très compliqué. Il y a plein d'histoires de sécurité, etc. Donc, ils se sont dit, ça, c'est même pas envisageable. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est amener la science au public. Mmh. Et là, forcément,
quand
étant
on est
anglais, la science au public, bah, c'est au pub, hein, forcément. Donc, Pint of Science est né en 2013. La première édition a eu lieu en mai 2013.
Ouais.
Donc, c'est la cinquième édition en Angleterre maintenant. Dans trois villes, Londres, Oxford et Cambridge. Et on a réuni plus de 3000 personnes.
Ah, c'est incroyable. Donc, ça a pris tout de suite, cette
histoire? Ça a pris tout de suite. J'ai participé, justement, vu que j'habite à Londres, en fait, j'ai participé à cette première édition. Et voilà, c'était vraiment un groupe de scientifiques qui avaient envie de partager la science et qui n'avaient aucune formation en marketing, en communication, en quoi que ce soit. On était juste un groupe de scientifiques qui avaient envie de montrer tout ce qui se passait dans les laboratoires. Et ça a très très bien marché. On a été d'ailleurs très surpris. Au départ, on ne savait pas trop quoi faire avec ce succès.
C'est vrai.
Et je leur ai proposé du coup d'essayer de rendre ça international.
Parce que les Français aiment aussi aller boire des pains
de bière. Voilà, en plus, comme je suis française, voilà, exactement. Je me suis dit, ça marche très très bien en Angleterre et ça serait chouette d'avoir ça en France.
Ouais. Jean Z, c'est une bonne idée. Hein.
Oui, c'est une excellente idée. Mais que raconte un scientifique au bout de trois pintes, par exemple?
Lui, il ne doit pas boire.
Alors, ce qui
c'est
est très
public.
Drôle, c'est que justement, voilà, généralement, ils ne boivent pas ou alors ils ont une pinte qui dure la demi-heure.
Mais c'est les questions qui dérivent.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est que les questions, justement, généralement surprennent les scientifiques.
Oui.
Parce qu'on est habitué, en tant que scientifique, à discuter avec des scientifiques. Hein. Donc, à avoir des questions très pointues sur un sujet et qui sont généralement toujours les mêmes.
Oui. Et puis, la bière, ça libère aussi les questions.
Ça libère et puis surtout, le point de vue du public, en fait, parfois va avoir vraiment un point de vue complètement différent et très très intéressant qui va un petit peu surprendre les scientifiques et parfois leur donner de bonnes idées, en fait.
Guillaume Éveillard.
Oui, c'est vrai que nous, à l'aquarium, on a le même souci parce qu'on peut pas faire venir les gens derrière les aquariums dans les parties coulisses.
Ah oui.
Et les gens souvent sont fascinés quand on les emmène. Bon, c'est rare parce que c'est des zones qui sont interdites au grand public, mais ils sont fascinés pour voir. Ils adorent voir la reproduction des méduses, des coraux en coulisses.
Et ça, c'est plus difficile à emmener dans les bars, hein, pour le coup. Hein.
Bah, des photos l'année prochaine. Hein.
Avec plaisir de parler des requins, des méduses, des coraux.
Mais carrément, au contraire.
Ouais. Alors, comment vous choisissez vos scientifiques et puis les bars aussi qui sont réquisitionnés à l'occasion?
Alors, tout ça, c'est une équipe de bénévoles. Donc, on est 300 en France. Hein. Donc c'est une équipe de bénévoles, généralement ils sont locaux, donc par exemple c'est à Paris, ça va être organisé par des bénévoles locaux, scientifiques ou non, la plupart sont scientifiques, du coup qui vont connaître un petit peu les chercheurs et savoir qui parle bien, donc ils vont un petit peu faire un travail de recherche pour savoir qui va bien réussir à vulgariser cette science.
Ça c'est le souci numéro un, hein, quand on veut faire passer la science auprès du grand public.
Exactement, parce qu'on peut pas prendre n'importe qui, faut aussi bien les briefer pour bien leur dire, vous parlez vraiment à un grand public, c'est-à-dire des gens qui ne sont censés ne rien ni connaître du tout.
Donc mais qui s'intéressent à tout.
Mais voilà, qui s'intéressent. Donc il faut vraiment juste bien expliquer, pas dire de mots trop compliqués.
C'est ce que fait Jean Z aussi sur France Info quand il parle des jeux vidéo d'ailleurs.
Oui, c'est pareil, c'est la même.
Faut parler d'un univers. Démarche, pas toujours très connu non plus.
Oui, avec un vocabulaire spécifique. Enfin bon, les scientifiques connaissent ça absolument. Donc il y a réellement cette démarche. C'est marrant parce que le jeu vidéo est né comme ça. On essayait de faire passer la révolution informatique, ces gros ordinateurs qui valaient des millions. Et en fait, on savait pas très bien comment parler au grand public. Et du coup, ils ont fait des jeux.
Voilà. C'est vrai. Voilà. Ouais. Alors, Élodie Chabrol, on n'a même pas dit que ça commençait lundi prochain, lundi 15 mai, jusqu'à mercredi 17. Donc, il y a plus de 30 villes en France, dont allez, Amiens, Beauvais, Bordeaux, Caen, Chamonix, Lyon, Marseille, Nantes, Nancy, etc.
Et on a même 4 villes à La Réunion.
C'est ça, sur l'île de La Réunion. Donc, il y a toutes les villes qui sont inscrites sur Pint of Science. Donc, ça, c'est le site français. Oui. Hein. On paye 2 euros, c'est ça?
On paye 2 euros.
Et on a une bière pour 2 euros avec un scientifique?
Non. 2 euros, on est une association à but non lucratif, donc les 2 euros en gros nous aident à faire tourner l'association. Chaque soir il y a généralement un petit jeu, une animation où on va vous permettre de gagner un sac, un t-shirt, voilà, donc vous pouvez partir avec des petits goodies Pint of Science.
Génial, et donc des sujets comme les merveilles de l'esprit, des atomes aux galaxies, la planète Terre, Star Trek par exemple, de l'homme aux civilisations, donc vraiment vous balayez toutes les disciplines
toutes
de la science.
Toutes les disciplines, c'est pas juste les sciences dures, on va aussi s'intéresser aux sciences sociales. Sciences sociales, c'est dur à dire. Donc vraiment, on va essayer de balayer tout ce qui est imaginable, tout en essayant de garder des thèmes un petit peu d'actualité.
Ouais. Est-ce que vous allez faire une conférence, enfin une rencontre autour de vos travaux sur les campagnols fidèles?
Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas mes travaux, mais c'est vrai que c'est des travaux qui m'intéressent énormément. Étant neuroscientifique, en fait, tout ce qui est neurobiologie de l'amour, de la fidélité, tout ça.
Ouais. Donc là, c'est la fidélité des campagnols, c'est ça?
Et là, c'est la fidélité des campagnols, tout à fait, lundi soir.
On a découvert le secret de leur fidélité?
Eh bien oui, car il y a deux types de campagnols. Donc, les campagnols de prairie.
Le fidèle et l'infidèle.
Attention.
Alors, généralement, c'est comme ça que je les appelle.
Campagnols de prairie et campagnols de montagne. Ah, qui est le plus fidèle des deux?
Alors, c'est le campagnol de prairie.
D'accord.
Donc, une fois qu'il s'accouple, il reste avec la campagnolette. On va dire. Voilà, il reste, en gros, une fois qu'ils s'accouplent, un couple de campagnols reste ensemble pour la vie. Campagnol des prairies. Alors que le campagnol des montagnes va s'accoupler. Et puis, il va s'accoupler avec un autre campagnol. Et puis, un autre campagnol. Voilà, il va s'amuser.
C'est l'altitude qui fait ça, quoi.
Eh bien, non, en fait, c'est l'ocytocine qui est une molécule qui est connue pour beaucoup, beaucoup de choses. Elle est connue pour notamment l'attachement entre mère et enfant ou entre famille, entre partenaires, etc. C'est un peu l'hormone qui sert vraiment à plein de choses.
Du lien social, oui.
Exactement. L'hormone de l'amour, de l'attachement, etc.
Il y a des sprays d'ocytocine.
Tout à fait.
Ça marche ou pas? Est-ce qu'on est plus fidèle avec un petit coup de spray?
On va essayer lundi. Mais justement, voilà, c'est une hormone qui est fascinante parce qu'elle est.
Ça intéresse tout le monde autour de cette table. En tout cas, visiblement. Vous le donnerez où votre rencontre?
Au Café d'Alva.
Donc à Paris?
Oui.
Voilà, et toute la liste donc sur le site Pint of Science, ça commence lundi jusqu'à mercredi pour aller rencontrer les scientifiques. Attention, évidemment, tout ça est à consommer la bière avec modération. Allez, nous partons dans les Vosges pour les Imaginales d'Épinal où nous attend Stéphane Vizère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Stéphane Vizère, le directeur du festival justement des Imaginales d'Épinal. Donc ce sera la 16e édition. Alors c'est la semaine prochaine, on prend un petit peu d'avance, du 18 au 21 mai. Il s'agit de quoi? D'un salon de littérature sur l'imaginaire et le style fantasy, c'est ça?
Alors oui, tout à fait. C'est un festival complet, un festival thématique qui a pour base la littérature déjà dans un premier temps et puis qui s'ouvre vers les différents thèmes, champs de l'image, de l'imaginaire, etc. Avec du cinéma, avec de la BD, avec du théâtre, de la musique, etc. Enfin, plein de choses et puis beaucoup d'expositions qui sont proposées autour des auteurs et des livres de littérature, de fantasy essentiellement et puis de littérature d'imaginaire, de SF et de science-fiction et de fantastique, qui sont les trois grandes familles qu'on appelle traditionnellement sur les littératures d'imaginaire.
Donc vous avez fait de la place à la science dans ce rendez-vous ?
Oui, tout à fait. Alors la science, elle est, c'est quasiment un compagnon obligé de ces littératures d'imaginaire et nombre d'auteurs sont issus du milieu scientifique ou des scientifiques eux-mêmes très précis et compétents. Et puis parce que l'imaginaire, la technique permettent effectivement d'aller vers la découverte. Hein, je dirais c'est plutôt ça. Et donc un certain nombre sont tombés plutôt dans la littérature, d'autres sont restés un petit peu entre les deux champs. Mais en tout cas, la science nourrit l'imaginaire. Et puis, on dit aussi assez facilement que la science produit des images. Enfin, la science-fiction produit les images de la science et qu'elle étudie, dans ce cas-là, aussi l'impact des sciences dans les découvertes qu'elle peut apporter. Ça, c'est notamment Jean-Claude Duniac, qui est un auteur qu'on a toujours plaisir à retrouver, qui dit ça.
Ouais. Alors, c'est destination le mot-clé, je crois, du festival cette année, avec la Suisse comme invité d'honneur. Pourquoi la destination ? Alors, qu'est-ce que vous allez décliner autour de ça ?
Alors, destination, c'est le thème générique qu'on prend chaque année, on a un nouveau thème sur le festival. Cette année, effectivement, c'est destination. C'est un mot qui est volontairement au pluriel et puis avec plusieurs sens. Alors, on retrouve évidemment la destination dans le sens du voyage et on voulait là-dessus pouvoir parler de l'ensemble des productions littéraires ou cinématographiques qui sont nombreuses actuellement et de très grande qualité sur le domaine notamment du space opéra, hein, qui a eu une vraie redécouverte, je dirais, en ce moment. Et puis on a aussi la destinée dans ce terme-là. Et la destinée, on est plutôt sur la quête initiatique. Et là, ça nous ramène plutôt vers la fantaisie.
Voilà, donc café littéraire, table ronde, conférence, débat, lecture publique, des petits déjeuners, des expos, des spectacles, des séances de cinéma. Donc c'est très complet. Ce sont les Imaginales d'Épinal. Donc c'est la 16e édition et ce sera du 18 au 21 mai prochain dans toute la ville d'Épinal, Stéphane Vizère.
Alors le cœur du festival se situe dans un parc qui est sur les bords de la Moselle, quelque chose d'assez magique en lui-même et tout à fait agréable. C'est le parc du Cours qui est en plein centre-ville. Mmh. Et le festival, évidemment, se nourrit, je dirais, dans toute la ville. On a 14 expositions avec un parcours qui est fait de l'une à l'autre, qu'on peut visiter pendant le temps du festival, bien évidemment, et puis aussi dans les mois qui suivent pour la plupart d'entre elles qui dureront un petit peu plus longtemps.
Et le site imaginal.fr pour tous ceux qui souhaitent donc rejoindre les Vosges. Stéphane Vizère, merci beaucoup et merci. Très bon festival donc à partir du 18 la semaine prochaine. Allez, dans un instant, on s'intéresse à l'histoire des jeux vidéo, c'est passionnant, c'est une exposition là aussi à voir à Paris en ce moment.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Les galériens, on prend sa main droite. prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça va vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
Les Villars avec démission pour Claire à l'instant.
La tête au carré, le club.
Voilà Jean Z, un petit jingle préparé rien que pour vous par Céline Hila pour cette exposition. À voir, alors vous nous rappelez de quoi il s'agit là, ce qu'on entend?
Koji Kondo à la composition, évidemment la musique c'est Super Mario Bros.
Voilà, et ça nous sert à parler de cette exposition à voir autour des jeux vidéo en ce moment à la Fondation EDF, c'est rue Camier dans le 7e à Paris. Vous en êtes le commissaire, vous êtes vous-même fou de jeux vidéo, vous chroniquez sur le sujet depuis 2010 maintenant sur France Info pour parler non seulement des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Alors avec cette exposition qui est vraiment ultra impliquante pour le visiteur, parce qu'on peut jouer aussi. Hein. Mmh. On n'est pas là juste à regarder des panneaux et à lire ce qui se passe sur l'histoire des jeux vidéo, mais on peut vraiment retrouver aussi hein, ces jeux qui ont marqué l'enfance de beaucoup d'entre nous, et puis suivre ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui avec les derniers nés de ces jeux. C'est d'abord un secteur industriel qui est absolument colossal aujourd'hui. Hein.
Colossal, oui, 100 milliards environ, 100 milliards de dollars sur la planète, entre 4 et 5 milliards en France. C'est surtout d'un peu moins de 50 ans, la date cruciale c'est 72, la sortie de Pong, la machine Pong, une superbe borne d'arcade, la naissance d'un secteur économique, culturel, tout nouveau, et qui, voilà, en 45 ans, s'est imposé dans le top 5, tout simplement, des industries culturelles. Ça,
ouais,
c'est fort.
Ouais, et ça ne cesse jamais de s'arrêter, puisque la courbe est exponentielle, quasiment. Hein.
Oui, assez exponentielle. Alors, ça varie selon les technologies, selon les techniques, et selon donc les scientifiques, mais effectivement, et surtout, c'est un jeu vidéo qu'on retrouve toujours aux endroits où on ne l'attend pas. Voilà, il peut s'incruster dans la médecine, dans la pédagogie. Bon, bref, rien ne l'arrête. Aujourd'hui, il a mille visages. C'est aussi ce qu'on voulait montrer dans l'exposition, que ce jeu vidéo était tentaculaire.
Voilà. Et des jeux vidéo qui veulent même se parer de la vertu du sérieux aujourd'hui.
Mais bien sûr,
quand même, hein.
Le serious game, c'est comme ça que ça s'appelle, effectivement. Là, c'est aussi un secteur économique qui a quand même du mal à s'imposer, mais le rêve, c'est...
ça a du mal.
Oui, ça a du mal parce que apprendre en s'amusant, il y a des petits obstacles sociaux. Hein, voilà. Il y a des gens qui ne croient pas qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse apprendre en s'amusant.
La bière est plus efficace.
Mais je ne sais pas si ça sert à apprendre aussi, il y aura encore des sceptiques. Mais par contre, dans la pédagogie, ça sert évidemment tout ce qui est de l'ordre de la simulation, par exemple en médecine. Voilà, le jeu vidéo est là pour remplir cet office.
Ouais. Qui joue autour de la table? Tiens, Guillaume Éveillard, est-ce que vous êtes un joueur de jeux vidéo ou pas?
Jeux vidéo, j'ai pas trop le temps. Non. Avec mes deux enfants, j'avoue qu'actuellement, c'est pas trop la principale. Mais effectivement, à l'aquarium, on a fait une simulation aussi avec un apnéiste plongeur qui s'appelle Fred Buil, où il a filmé en trois dimensions l'aquarium. Et ensuite, on a pu faire un test avec la réalité virtuelle. Bon, c'est pas un jeu vidéo, mais on était vraiment dedans. Et c'était vraiment exceptionnel.
Bon, Élodie Chabrol, la neuroscientifique, est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo ou pas?
Je joue plus trop, effectivement.
À quoi vous jouiez avant, alors?
Mario, notamment. Ça, c'était. Voilà, là, c'est rien que d'entendre le petit son, là, c'est... ça rappelle des souvenirs. Non, mais par contre, il y a aussi l'ICM, notamment l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a lancé un jeu pour récolter des données à analyser, justement, sur le cerveau, sur la façon de réfléchir, etc.
Donc ça, c'est la science participative via des jeux vidéo.
Ouais. C'était pas mal.
Oui, en France, on est pas mal d'ailleurs. L'INRIA a aussi inventé un système pour jouer avec la pensée. Voilà, on déplace une espèce de balle à l'écran avec la force de sa concentration et une espèce de casque tout bizarre qu'on a sur la tête. Et effectivement, ça sert surtout aux enfants qui sont un petit peu énervés, qui sont un peu trop actifs.
Voilà, au lieu de prendre de la Ritaline.
On est encore dans le sérieux, là, on est loin de Mario, mais ça marche, paraît-il, ça marche.
C'est vrai.
Très, très bien.
Alors, il y a un effet nostalgie qui marche hyper bien, évidemment, dans l'exposition. Moi, j'étais devant le Pac-Man comme un dingue parce que ça faisait tellement d'années que j'avais pas joué au Pac-Man. Donc, j'ai passé au moins un quart d'heure à scotter la machine. Ce qui est incroyable, finalement, c'est qu'il y a effectivement effectivement cette nostalgie dans un secteur ultra contemporain, mais dont on a déjà une préhistoire au fond. C'est-à-dire qu'on voit les débuts des jeux vidéo, ça paraît tellement ancien alors que ça a 20, 30 ans, pas plus. Hein.
Exactement, il y a un effet assez étrange, c'est que comme le jeu vidéo est lié à la technologie, eh bien, du coup il vieillit comme la technologie et ça va vite. Hein. C'est un peu comme le cinéma, même ça va beaucoup plus vite que le cinéma. Effectivement, si on compare une image d'il y a 30 ans, dans l'exposition, bien, on a ça. On a par exemple une simulation de foot qu'on a pris en 93.
Ah oui, les images.
Et
sont...
on a fait évoluer avec quatre versions différentes jusqu'à 2017. C'est... Et c'est saisissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du photoréalisme. Et hier, on a des pixels un peu tachés en 93. Ça ressemble à une bouillie. Alors, les enfants adorent parce que, mais qu'est-ce que c'est que ça va jouer? Et c'est de fascination. Mais c'est quand même, ça fait bizarre. Et du coup, on voit le temps. C'est l'une des particularités du jeu vidéo. C'est celui, comme la littérature, moi, je pense, c'est celui de pouvoir montrer le temps.
Ouais. Et on voit les époques vraiment qui s'inscrivent, dans la qualité des images, dans le graphisme, dans tout ce qu'on voit. Et on est capable de quasiment dater ces images.
Exactement. 90, on sait très bien que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le pixel art. Il y a des jeux qui se font avec des pixels, donc c'est gros carré. Mais ce qui est important, c'est que ça ne rebute pas les enfants qui courent vers Pac-Man, par exemple, Space Invaders, avant de se rendre compte que les jeux à l'époque étaient quand même très difficiles et de reculer devant la difficulté de ces jeux. Pac-Man, on a tout de suite
Mais c'est comme le vélo, ça revient très très vite.
Ça revient très vite. On a un souvenir sucré de ces jeux et puis quand on y joue, c'est plutôt salé. Voilà, on prend une facture directe.
Exactement. Alors, le rôle de la science, il est évidemment prépondérant là-dedans, parce que c'est une histoire d'ingénieur, de physicien, de mathématicien, le jeu vidéo.
C'est des nerds, des geeks qui voulaient faire parler, qui voulaient faire évoquer, qui voulaient donner la révolution informatique au grand public et l'expliquer et au grand public, mais non seulement au grand public, mais au patron des facs américaines. On est dans les années 50, 60, 70. Et voilà, alors à quoi ça sert un ordinateur? Et ben la meilleure solution, la meilleure réponse.
C'est de jouer avec.
Exactement. Mais seulement ces gens qui étaient habitués à déposer des brevets et encore des brevets n'ont pas déposé le brevet du jeu vidéo. Parce qu'ils ne l'ont pas vu, tout simplement. Et on leur a posé la question après en disant non, mais c'était juste quelque chose pour s'amuser. Mais ceci dit, ce rôle, on va dire, d'ambassadeur des nouvelles technologies, le jeu vidéo ne l'a jamais quitté.
Alors, vraiment, le lieu et la date de naissance, s'il fallait situer, c'est sur un campus américain
Oui, c'est sur un campus américain. On est aux États-Unis, 58, près de New York.
Donc 58. Hein.
58. Alors, on a un tennis for two qui est là, élaboré, qui est très très dur.
Alors, il est à jouer hyper dur.
Parce que les jeux avant 72, on les montre. Donc, ces jeux de nerd, ils sont impossibles à jouer aujourd'hui. On les a mis vraiment, il y a une très grande difficulté, mais on les a mis 58, un New Yorkais, William Higginbotham, qui a quand même participé au projet Manhattan, donc la première bombe nucléaire, qui en plus ensuite est parti vers le nucléaire domestique, et il a inventé ce jeu parce qu'il s'est dit ils vont tellement s'ennuyer devant des gars en blouse blanche, c'est la même pensée que prendre une pinte avec un scientifique, ils vont tellement s'ennuyer, il y a des machines partout, on comprend rien, les oscilloscopes, on va faire un jeu, et ils ont fait Tennis for Two.
Élodie Chabrol.
Non, je voulais savoir justement, Tennis for Two, c'est le tout premier jeu vidéo.
C'est tout premier. Alors en 52, il y en a un autre qui est une espèce de morpion. Alors là, l'ordinateur était tellement nul qu'il perd toutes les parties. Enfin, c'est impossible de perdre à ce jeu de morpion. Alors c'est dire pourquoi le tic-tac-toe? Moi, je dirais que c'est plutôt 62 sur un campus américain. Ça s'appelle Space War, inspiré de la conquête spatiale et de la guerre froide. Ouais. Pourquoi ce serait le premier jeu vidéo? Parce que c'est le premier à se propager, à se disséminer. À cette époque, toutes les facs américaines ont le même ordinateur. Du coup, il vaut quelques milliers de dollars. Mmh. Et du coup, il va avoir le premier piratage. Et on va pirater le jeu. Et toutes les facs américaines, et on va retrouver notamment l'inventeur de Pong parmi ces joueurs-là dans les années 60.
Alors, c'est quoi Pong? Parce que je crois que c'est le jeu que vous découvrez, Jean Z, quand vous étiez petit.
Moi, c'est Pong. Les machines Pong, c'est la naissance du jeu vidéo, ou en tout cas la naissance économique. C'est une simulation de tennis. Enfin, je n'ose l'appeler comme ça, parce que si vous voyez, c'est un beau filet, deux barres et une balle. Mais il y a déjà la naissance du fun, du gameplay. On le voit à l'expo, les jeunes jouent et adorent. Pourquoi? Parce que le jeu est vraiment dur, mais il est vraiment très sympa à jouer. Il est retors, plus la balle frappe le centre, moins la balle va vite, et moins elle prend d'angle, et plus on va vers le côté, c'est difficile.
C'est très vicieux.
Et là, plus la balle prend de l'angle et de la vitesse. On connaît tous ce jeu, et ça, c'est ce qu'on appelle le gameplay, c'est un coup de génie.
Alors, on va réécouter un thème que tout le monde va reconnaître, évidemment, a priori. Voilà. Elodie, vous l'avez?
Ah oui, mais des heures et des heures.
Des heures de Tetris.
Ah, quand même.
Voilà. Là, on est vraiment dans le top 5, probablement des thèmes les plus connus.
Énorme succès, Pagitnov, un russe, qui a inventé ça en pleine URSS. Donc, il a dû vendre ses droits pendant 10 ans. Il a été malin quand même, parce qu'il s'est dit, je vais peut-être me faire arrêter. Ça marchait tellement, ce jeu. Il s'est dit, bah, je vais dealer, je vais faire un contrat avec l'État soviétique pour pas finir en prison. Parce que ça se trouve, je peux finir en prison à cause d'un jeu vidéo. Et finalement, il ne retrouvera ses droits que bien longtemps après son invention.
Alors, ce qu'on découvre aussi dans l'exposition qui est très intéressant, ce sont toutes les communautés qui se sont créées autour du jeu vidéo. Parce que sur Internet, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Et on voit vraiment que ce sont agrégés des petits malins qui, par exemple, ont décidé de commenter les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils les testent, ils les commentent, ils en racontent les ressorts, les difficultés. Ça, c'est vraiment un phénomène qui a éclaté aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, et qui est suivi par des millions de personnes.
Oui, ce qu'on appelle les youtubeurs, qui ne sont pas que sur YouTube désormais. Hein, ouais. Toutes les plateformes vidéo sur Internet, possibles et inimaginables, ils y sont. Mais effectivement, c'est à partir de là où on a décidé, un peu comme dans les DVD, les Blu-ray, hein, vous savez, la piste où il y a le commentaire du réalisateur. Ouais. Bah là, ils ne sont pas réalisateurs du jeu, mais ils ont quand même décidé de faire le commentaire.
Voilà, c'est le geek qui fait son commentaire.
Exactement, sur YouTube. Mais seulement, c'est là encore une fois le jeu vidéo qui a servi d'ambassadeur de cette nouvelle technologie, c'est-à-dire la diffusion vidéo sur le web, sur un nouveau tuyau. Ouais. Et ça a marché tout de suite. Le plus grand YouTuber au monde est un YouTuber jeu vidéo. Il existe des YouTubers scientifiques, il existe des YouTubers beauté, etc. Ouais. Mais le premier, c'est PewDiePie, donc un Suédois qui est spécialisé dans le jeu vidéo.
Alors, il y a une vidéo qui est très marrante d'un Français, justement, qui à un moment décrit la difficulté. Il se dit, mais comment on a pu inventer un jeu pareil? Parce qu'on peut pas y jouer, en fait.
Oui, c'est le joueur du grenier qui s'est spécialisé justement dans ces jeux d'antan, des années 80-90, en se disant, mais comment on pouvait jouer enfant à ces choses-là qui étaient si difficiles? Alors, je suis pas sûr qu'on y arrive. On devait laisser tomber quand même. Mais bon, bref, devant les copains, on disait si on y est arrivé. Et lui, il raconte ça en disant, mais c'est incroyable, c'est mal fait, c'est pas au pixel près.
Et c'est impossible de jouer. On peut être champion.
Il y en a eu beaucoup, hein. C'est ça. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais il y en a eu beaucoup à une époque. Ouais. On faisait quand même des jeux qui étaient infaisables.
Jean Z, on va écouter justement le tout premier YouTuber de l'histoire. Si on en juge par ce qu'on voit dans l'exposition, c'est en 2005. C'est un jeune homme qui va dans un zoo. Il voit des éléphants. Il commente ça devant la caméra. Ça dure 19 secondes. Oui. Et c'est un moment d'histoire puisque cette vidéo a été vue plus de 40 millions de fois. Alors on l'a pas traduite. On écoute juste sa voix. C'était la première vidéo sur YouTube.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Voilà, on peut traduire parce qu'en gros il dit rien, si ce n'est que la trompe des éléphants est longue.
Oui, visiblement il a une fascination sur les trompes d'éléphants et il dit, et ça c'est cool. Voilà, ça dure 19 secondes, voilà. C'est la première vidéo YouTube, ça n'a absolument aucun intérêt, mais je voulais quand même la mettre pour dire,
ça.
Voilà, c'est ça la première. Alors, je ne sais pas s'il y croyait, c'est un des fondateurs, je ne sais pas s'il y croyait à ce projet pour faire une telle vidéo, c'est une vidéo test, clair. Mais bref, ils n'avaient pas beaucoup d'ambition, on va dire, esthétique, mais finalement ça a bien marché. Hein.
40 millions de vues depuis, et une de plus avec la tête au carré aujourd'hui. La réalité virtuelle, puisque l'exposition est en trois parties, c'est la salle du sous-sol. On peut vraiment aller chausser le casque de réalité virtuelle pour une expérience intéressante, puisqu'on en est dans la peau d'un aigle et on va survoler Paris et ressentir tout le vertige justement d'un oiseau, enfin d'un humain qui se prend pour un oiseau.
Effectivement, en servant de la réalité virtuelle, c'est-à-dire ce nouveau monde qui s'applique via un casque devant les yeux, casque sur les oreilles, et puis on est transporté, le cerveau est littéralement bluffé et on est dans le ciel de Paris. Vous avez dû faire un rase-motte, vous l'avez testé.
Oui.
Et ben le rase-motte, on le sent bien, l'estomac se soulève c'est le cerveau qui commande à l'estomac de se soulever, il y a rien, personne, enfin voilà, on ne bouge pas, on est là les deux pieds bien sur le sol, et on voulait montrer quand même cette expérience là pour montrer à la fois que cette réalité virtuelle elle existe depuis 30 ans. Alors évidemment elle était balbutiante, mais c'est encore une fois le jeu vidéo qui a décidé de servir d'ambassadeur à cette nouvelle technologie.
Absolument. On a fait le tour à peu près de l'exposition sans aide, manque pas grand-chose, la partie artistique pour montrer aussi l'art dans les jeux vidéo.
Oui, parce que moi j'ai l'impression que le jeu vidéo aujourd'hui, alors c'est méconnu, mais traite aussi de questions politiques, esthétiques, scientifiques, éthiques.
Le jeu vidéo est-il une drogue, par exemple?
Exactement. Hein. Puis les amis, les amours, les emmerdes. Bref, le jeu vidéo s'intéresse à la vie en général et donc à l'art aussi quelque part. Et on voulait montrer ça.
Voilà. Et on peut y participer. C'est-à-dire qu'on peut jouer.
C'est interactif. C'est gratuit. Il n'y a pas de barrière à l'entrée.
C'est à l'espace Fondation EDF. C'est 6 rue Récami à Paris dans le 7e. C'est valable jusqu'au 27 août prochain. Mm-hmm. Et puis ça fait l'objet d'un livre aussi qui est paru avec France Info et les éditions Le Seuil, le jeu vidéo à travers le temps que vous signez Jean Z, exposition très réussie. Vous restez avec nous dans un instant, on s'intéresse au Corot qui nous donne rendez-vous là au Trocadéro. Hey,
get down? Tell me, or what you gonna do? Do you wanna get down? Or what you gonna do? You wanna get down? Or what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it.
Down on it, c'est Cool and the Gang à l'instant.
Son rêve, Pascal plonge enfin dedans. À quelques mètres du rivage, il découvre l'un des plus fascinants et riches écosystèmes de notre planète. Les coraux, ce ne sont pas des végétaux ou des minéraux, ce sont en réalité de petits animaux. Ils sont mangés par certains poissons, eux-mêmes mangés par d'autres espèces animales. La Grande Barrière forme le plus grand organisme vivant du monde. 400 espèces de coraux, 1500 spécimens de poissons, 4000 variétés de mollusques.
Il y avait des gros poissons au fond et sous les rochers. Je descendais, je me calais en dessous du rocher là et je les regardais et il y avait des trucs très sympas.
Voilà la Grande Barrière de Corail, lieu emblématique, extrait d'un carnet de voyage d'Envoyé spécial. Et justement, pour parler des coraux, cette exposition à l'Aquarium de Paris chez nos voisins du Trocadéro. Et c'est vous qui êtes avec nous, Guillaume Evillard. Vous êtes biologiste, plongeur, conservateur de l'Aquarium de Paris. De quoi vous vous occupez alors exactement quand on travaille dans un aquarium? C'est quoi le quotidien de...
Alors donc oui, moi je suis le conservateur de l'aquarium, donc je m'occupe du bien-être des animaux. Donc,
le bien-être des animaux.
C'est ça.
Des poissons.
Que les poissons soient bien dans leur bassin, qu'ils se reproduisent. Même on a des naissances de requins à l'aquarium. Mm-hmm. On a fait des échographies de requins pointe noire mardi dernier là, avec le vétérinaire. Et on a vu qu'il y en a 8 sur les 8 femelles, il y en a 4 qui sont pleines. Donc ça fait partie du quotidien de repêcher des requins pour faire des échographies.
C'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un cannibalisme dans le ventre des mères requins,
que les petits
se mangent entre eux, c'est
tout
vrai
ça? Tout à fait, chez le requin taureau.
Ouais.
Heureusement, nous n'avons pas de requin taureau, nous avons des requins pointe noire. Par contre, il y a un cannibalisme après, quand les requins naissent, ils peuvent se faire manger par les autres requins ou même par la propre, mm-hmm. par la mère. Donc on doit séparer les petits des adultes.
Ouais. Et ça se voit à quoi le bien-être d'un requin, alors par exemple où,
on a fait appel à des éthologues pour regarder le comportement des requins, pour faire des budgets temps, donc pour voir combien de temps ils passent à nager dans tel endroit, dans tel autre, et pour qu'ils ne tournent pas en rond dans leur bocal, quoi, tout simplement. Nous, on a le plus grand bassin de France, il fait 3 millions de litres d'eau, mm-hmm. ou 30 mètres de long, 10 mètres de profondeur et 11 mètres de large, avec une trentaine de requins qui évoluent à l'intérieur.
Voilà. Jean Z connaît d'ailleurs l'aquarium.
Très bel aquarium.
Du Trocadéro. Voilà. Alors, les coraux, parce que là, c'est quand même le centre de l'exposition, c'est pas les requins, à voir pour sensibiliser, on le disait tout à l'heure, valeur vraiment le public sur cette question vraiment essentielle du monde vivant quand même, hein.
Oui, tout à fait. Sensibiliser les générations futures, c'est nécessaire parce que les coraux sont en danger actuellement. Donc c'est le deuxième épisode de blanchissement qui survient là sur la Grande Barrière de Corail. Il y en a eu un l'année dernière et un cette année.
Ouais. Qui se caractérise comment alors exactement ?
Alors le blanchissement des coraux, c'est quand les coraux sont soumis à un stress. Et là actuellement, il s'agit de l'augmentation de la température. Donc c'est le réchauffement climatique.
Ouais. Directement.
Directement. Donc ce qui se passe, c'est que les coraux expulsent leurs zooxanthelles. Donc les coraux sont des animaux, effectivement, qui vivent, qui hébergent des algues en symbiose, donc dans leur tissu. Et quand ils sont stressés, les algues sont expulsées, donc le corail blanchit, parce que les algues, c'est ce qui donne la couleur aux coraux. Donc il y a des coraux rouges, des verts, des bleus, et cette couleur est donnée grâce aux algues. Donc quand ils sont stressés, ils libèrent les algues, et du coup ils meurent parce que les algues les nourrissent. Les algues nourrissent les coraux et leur fournissent l'oxygène. Mmh. Donc quand les coraux se retrouvent sans algues, ils blanchissent parce qu'ils perdent leur couleur, et leur squelette est calcaire, et ensuite ils meurent.
Mais c'est un phénomène irréversible ou on peut...
Alors tout dépend combien de temps dure l'élévation de la température. Ouais. Quand c'est des épisodes qui sont courts, les coraux peuvent retrouver d'autres algues et à ce moment-là survivre.
Alors ce qu'on apprend dans l'exposition, c'est que les coraux, on en trouve aussi dans les eaux froides, hein, pas seulement justement dans les climats tropicaux ou chauds comme la Grande Barrière.
Oui, tout à fait, on met l'accent sur les coraux d'eau froide, les coraux tempérés, donc d'Atlantique et de Méditerranée. Vous connaissez tous le corail rouge en Méditerranée, qui est souvent utilisé comme pendentif malheureusement. Mais donc il y a des coraux en Méditerranée, il y en a en Atlantique aussi, des gorgones. Alors le corail rouge et les gorgones sont des faux coraux, hein. Ce sont des coraux mous, ce ne sont pas vraiment des coraux constructeurs de récifs comme ceux qui sont sous les tropiques, mais ils font quand même partie de la grande famille des coraux.
Et d'où ils viennent d'ailleurs ceux que vous nous présentez dans l'exposition ? Alors ils ont été prélevés à l'extérieur ou pas ?
Alors nos coraux proviennent de boutures qui sont issues de bouturage dans d'autres aquariums, donc on ne prélève pas des coraux dans le milieu naturel. Les coraux ont la grande particularité de pouvoir se fragmenter, parce que ce sont des colonies de polypes en fait, les coraux, c'est des colonies de micro-organismes. Et donc quand on fracture un morceau de corail, on peut le réimplanter ailleurs. Donc c'est ce qu'on fait entre aquariums, on fait beaucoup d'échanges, donc on évite de prélever des coraux dans la nature.
D'accord, vous évitez d'en envoyer aux Australiens.
Oui, c'est ça, oui.
Attention, il y a des gros dangers en ce moment.
Alors pour envoyer des coraux, c'est très compliqué, parce qu'il faut une autorisation qui s'appelle le CITES. Il faut un papier en fait. Et d'ailleurs, il y a des coraux qui nous parviennent des douanes parce que ce sont des coraux sans papier. Et nous les hébergeons. Nous hébergeons des sans-papiers à l'aquarium de Paris.
Mais c'est merveilleux. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, voilà, c'est l'aventure du muséum qui a envoyé des planches de l'herbier et qui ont été brûlées par les autorités australiennes. Les coraux, ça rend un nombre de services incroyables, et aux hommes en particulier. Hein. Ça, c'est intéressant de le voir aussi sous cet angle-là.
Les coraux nous protègent effectivement parce que les barrières de corail sont un rempart contre les tsunamis et contre les ouragans. Donc c'est vraiment important de les protéger, ne serait-ce qu'égoïstement pour nous, pour les hommes, parce que ça protège le littoral.
Ouais. Ce sont des animaux, hein, il faut le rappeler quand même, les coraux.
Voilà, les coraux sont des animaux qui pondent des œufs.
Ouais.
Alors, donc... c'est assez drôle quand on dit ça à un enfant, parce que tout de suite, on éveille sa curiosité.
Ouais.
Alors ils pondent une fois par an, après la pleine lune.
Donc c'est pas du végétal, hein.
Les coraux, non, sont des animaux. Par contre, ils sont à la fois donc animal, végétal et minéral, parce qu'ils hébergent en symbiose des microalgues, qu'on appelle les zooxanthelles. Et également, ils construisent un squelette calcaire, donc qui forme après les grands récifs coralliens qu'on peut voir, qui sont les plus grosses constructions biologiques sur la Terre.
Ouais. Quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, on peut s'inquiéter sur l'avenir justement de ces organismes ?
Oui, c'est inquiétant. L'avenir est pas très... Bah, c'est un peu sombre parce qu'il y a déjà 20% donc des récifs coralliens qui ont disparu à jamais. On considère qu'un quart des coraux sont en mauvaise santé, donc les trois quarts encore, heureusement, sont en pleine forme. Il y a des côtés positifs, c'est que des chercheurs actuellement constatent qu'il y a une résilience de certaines espèces de coraux, donc qui sont capables de s'accoutumer à l'augmentation de la température. Donc heureusement, des espèces résistent à l'augmentation de la température. Malheureusement, ces changements surviennent très rapidement, très brutalement, donc que ce soit l'acidification des océans ou le réchauffement climatique, et les coraux n'ont pas le temps de s'habituer, et surtout ils ne peuvent pas se déplacer comme à l'inverse des poissons. Les poissons, bon, bah, si l'eau est chaude, ils vont ailleurs, mais les coraux non.
Eh ben, c'est ce qu'on verra à l'occasion de cette exposition qui est à voir encore pendant quelques temps, la date de fin.
Oui, jusqu'en septembre.
Voilà, c'est Corail Cœur de Vie, exposition à l'Aquarium de Paris au Trocadéro, et vous pourrez aller dire un petit bonjour aux requins en même temps. Merci beaucoup à tous.
Merci.
Et bon week-end.
Merci.